Cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre zone. Un écho des luttes à retrouver sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien.
Autre monde,
autre monde, autre zone. Autre zone.
Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Disponible pour une nouvelle émission d'Attaque 44? Je suis Agnès et je vais vous présenter une émission sur les forums sociaux mondiaux, FSM, dont le prochain se tiendra en août 2026 au Bénin à Cotonou. L'objectif de cette émission est de rappeler quelques éléments de contexte pour comprendre quand et comment les FSM ont été créés, puis comment ils ont évolué, positifs et négatifs, et enfin pourquoi il est nécessaire qu'ils continuent, et peut-être qu'on se retrouvera en août 2026 à Cotonou. 5 personnes vont intervenir aujourd'hui, toutes et tous militants investis dans Attaque, mais pas que, beaucoup de syndicalistes aussi, entre autres. Pour la première partie consacrée à la création des FSM, je vous laisse en compagnie de Christophe Aguiton, sociologue et militant syndical, et Annick Coupé, militante syndicale et féministe. Et c'est parti!
Alors, en fait, à la fin des années 90, juste avant le passage à l'an 2000, on voyait se passer pas mal de choses au niveau international. D'abord, nous, Attaque, on s'était créé un peu plus d'un an avant, en 98, et on voyait en 99 un afflux de membres, ce qui n'était pas du tout prévu. Hein. Ce qu'on avait fait à l'époque, quand Annick était comme moi à la réunion constitutive d'Attaque, c'était une espèce d'ONG, c'était ça le terme que les gens du monde diplomatique utilisaient, qui devait faire un peu de lobby pour la taxe Tobin, mais on ne pensait pas du tout qu'on aurait de membres. Hein. C'était une espèce de cartel d'organisation dirigé un peu par le monde diplomatique, mais avec l'idée que c'était un mouvement qui était plutôt un mouvement d'idées et qui ferait du lobbying, pas plus que ça. Et puis les gens sont arrivés. On n'avait pas prévu de comités locaux au début, on a été obligé de les créer. Enfin, il y avait toute une dynamique qui nous a un peu dépassés. Et puis au niveau international, on voyait qu'il se passait pas mal de trucs dans différents pays. Le truc le plus important, parce que c'est aux États-Unis et comme c'est le pays le plus important du monde, ça a un impact global, c'était la manifestation de Seattle fin 99, où moi j'y étais pas, c'était Tartakovsky qui était pour Attaque, mais qui a eu un impact considérable. Toutes les radios, les chaînes de télé, y compris faisaient du direct en live, c'était vraiment quelque chose de très très important, même si sur place, il y avait peut-être 30 ou 40 000 personnes, mais ce qui est beaucoup beaucoup pour les États-Unis. Et puis surtout, ils ont bloqué l'OMC. Et puis, comme c'est les États-Unis, ça a eu un retentissement mondial. Et à ce moment-là, on s'est dit à beaucoup, nous, à Attaque, mais d'autres mouvements. En Angleterre, c'était comment on appelle ça, Jubilé 2000, qui était une campagne pour l'abolition de la dette des pays du tiers-monde. Il y avait aussi aux États-Unis un mouvement qui s'appelait 50 Years is Enough, pour critiquer le rôle du FMI et de la Banque mondiale. Enfin bref, il y avait plein de mouvements. On travaillait beaucoup aussi avec la Marche mondiale des femmes qui s'était créée au Québec et qui s'était implantée un peu partout. Et nous, en France, surtout à Solidaire, il y avait pas mal de liens et de choses qui s'étaient créé. Et on s'est tous dit qu'il serait très important d'avoir un cadre où on pourrait se réunir pour réfléchir à ce qui se passait, voir ce qui changeait dans le monde et aider à organiser toutes ces manifestations et ces mouvements au niveau planétaire. Bon. Mais il y a quelque chose que beaucoup d'entre nous savions, c'est que les États-Unis ne sont pas un pays dans lequel on fait ce genre de choses. C'est un pays énorme qui est convaincu de son importance de par son rôle géopolitique évident. Et donc, il n'y a jamais, venant des États-Unis, une proposition d'international, quelle qu'elle soit, ou de réunion globale, c'est pas du tout le style. Donc on savait qu'il faudrait que ça passe ailleurs. Donc, il y a eu une série de réunions préparatoires avant le premier forum social mondial. La première a eu lieu juste après Seattle, à Bangkok. C'était une réunion de l'ONU sur les questions financières, hein, quelque chose qui s'appelle l'UNCTAD. En français, c'est le CCNUD, quelque chose comme ça, où on a lancé un premier appel. Ensuite, on a aidé, nous, ATTAC, à organiser une deuxième réunion qui était à Genève en juin 2000. Qui était là organisé à l'occasion toujours d'un sommet de l'ONU, mais là sur les questions sociales. Et c'est pendant ce sommet de Genève que sont arrivées en Europe une délégation brésilienne avec des dirigeants de mouvements sociaux importants, plus le gouverneur de Rio Grande do Sul, qui était donc cet État du sud du Brésil où avait été expérimentée la démocratie participative il y a maintenant plusieurs années, qui était l'idée que la démocratie ne doit pas être simplement un vote tous les 5 ans ou tous les 6 ans pour donner un pouvoir à un maire, à un conseil municipal, mais que tous les ans, on pouvait faire participer les habitants à l'élaboration du budget. Et donc, ces militants brésiliens avaient été en contact avec Bernard Cassen, qui les connaissait, qui était à l'époque le président d'ATTAC. Et donc, ils ont fait la proposition de faire une espèce de contre-Davos, qui était de se retrouver dans un pays du Sud, le Brésil, dans un endroit où la démocratie participative avait été inventée, à Porto Alegre, qui est la capitale de l'État du Rio Grande do Sul, et d'en faire une espèce de grande réunion mondiale de tous les anti-mondialistes au sens de ce qu'on appelle maintenant les altermondialistes. Le terme n'existait pas encore à l'époque, il a été inventé par les Québécois et on l'a repris tout de suite, nous, en France. Et donc d'avoir là quelque chose qui serait une espèce d'écho et de contre Davos qui se tenait au même moment, donc dans la troisième semaine de janvier. Voilà, ça c'est ce qui a été décidé donc à Genève. 7 mois avant la réunion de janvier, ou 8 mois, puisque c'était en juin, et la suivante avait lieu en janvier 2020, en 2001, pardon, il y a maintenant près de 25 ans. Et on a tous accepté la proposition des Brésiliens, et c'est comme ça qu'est né le premier forum social mondial à Porto Alegre en fin janvier 2001, et qui a eu un succès plus important que ce que l'on pouvait espérer. Mais ça, c'est une histoire que connaît bien Annick, donc je te laisse continuer.
Mais je peux peut-être rajouter deux, trois choses sur le contexte. D'abord, il y avait aussi le mouvement zapatiste, donc c'est 1994. Alors, ça a été plus compliqué après pour le lien avec le mouvement altermondialiste, mais en tous les cas, la question internationaliste, je pense qu'elle était posée d'une certaine façon par la révolte zapatiste qui intervient à partir du 1er janvier 1994. Si je ne me trompe pas. Et la deuxième chose, c'est peut-être aussi la question des accords du GATT, enfin du libre-échange et la mise en place de l'OMC. Donc ça, je pense que c'est aussi 94-95. Et je me souviens d'une première réunion à l'initiative de la Via Campesina à Genève autour de ces enjeux-là. Moi, j'y avais participé au titre du syndicat et c'était des choses qu'on ne connaissait pas beaucoup à l'époque, sur lesquelles on ne réfléchissait pas beaucoup, mais qui, à mon avis, vont aussi dans le sens de ce qui s'est passé après, à la fin des années 90, quoi. Et évidemment, la question, l'a dit un peu Christophe, c'est que la question des institutions internationales, FMI, OMC, bah, enfin, les accords du GATT qui sont devenus l'OMC, la Banque mondiale. C'est ça qui va commencer un peu à cristalliser. Et peut-être il y a aussi pour la France un élément, c'est le mouvement social de novembre-décembre 1995. Alors, les questions de l'altermondialisme ne sont pas posées dans ce mouvement, évidemment, mais je rappelle simplement que le Monde, le journal Le Monde, va titrer Première grève ou premier mouvement social, mais je crois que c'était Première grève contre la mondialisation. Sur le mouvement social de décembre 1995. Donc, tout ça pour dire qu'il y avait aussi des éléments dans le débat, même si ce n'était pas clairement explicité, réfléchi par les mouvements sociaux, qui vont permettre que se développe le mouvement altermondialiste. Donc, effectivement, succès, comme a dit. Moi, je n'étais pas à Porto Alegre hein, au premier FSM. Il y avait une délégation de mon syndicat de Sud PTT à l'époque. Et ce que dit Christophe, c'est-à-dire que ça a été un succès au-delà bon, de ce qui était espéré. Et les camarades qui y participent vont en revenir, alors que ce soit ceux de Sud PTT, des syndicalistes de Solidaires ou d'ATTAC, les gens qui participent reviennent très enthousiasmés, quoi. Et en disant il est en train de se passer quelque chose. Et je crois que ce qui a enthousiasmé les camarades, et comme ceux et celles qui vont y participer les années suivantes, c'est la rencontre avec des mouvements sociaux du monde entier et des mouvements qu'on ne connaissait pas forcément.
C'est-à-dire que même les militants et militantes qui se préoccupaient des enjeux internationalistes ne connaissaient pas forcément dans le détail, par exemple, le mouvement des sans-terre au Brésil, pour ne prendre que celui-là, quoi. Donc je pense que c'est vraiment la découverte que les formes de lutte, les formes de mouvement, les réflexions qu'il y a dans tous ces mouvements, à la fois c'est très divers, hein, mais ça apporte aussi des choses aux mouvements sociaux en France. Par exemple, la question de la démocratie participative, hein, ce que dit Christophe sur ce qui existait à Porto Alegre, c'est aussi des choses qui vont arriver dans les réflexions des mouvements sociaux. Voilà, alors moi, sur le démarrage, je pense que ça a été ça. C'est-à-dire tout de suite, il y a une dynamique de dire, bon, faut continuer. Donc, ça a été ensuite le deuxième forum social mondial qui était aussi à Porto Alegre, mais ça a été aussi la constitution très vite de l'idée d'un forum social continental en Europe. Donc, le démarrage du processus du forum social européen, dont le premier sera
Florence,
à
à
Florence,
Florence.
pardon, voilà, en 2002, et qui sera aussi un énorme succès.
On était 10-15 000 au premier, 20 000 au second et près de 60 000 au troisième. Hein, bon. Et donc une participation très massive, et côté français en particulier, une capacité à mobiliser des gens au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Au maximum, c'est-à-dire au troisième Forum social mondial, hein, en 2003, nous étions 3 000 Français. Hein, bon, ce qui est absolument considérable. Et à la différence d'autres pays, une des caractéristiques de la délégation française, c'est que ce n'était pas simplement des gens qui venaient avec un soutien financier de leurs organisations, que ce soit les syndicats comme Solidaires, mais il y avait aussi la CGT. Je crois même que la CFDT avait été dans les tout premiers, ATTAC et d'autres. Mais beaucoup, beaucoup de gens, la très grosse majorité, plus de 2 000, 2 500 personnes, sont venues sur leur propre denier, si l'on peut dire. Souvent avec l'idée, mais ce qui est pourquoi pas, hein, de faire un tour du Brésil un peu plus global, parce qu'il y avait après le carnaval de Rio, etc. Mais ça a popularisé à un niveau absolument incroyable, parce que dans toutes les petites villes de France, il y avait une, deux ou trois personnes qui avaient été à Porto Alegre. Donc ça a créé une espèce de culture commune qui n'allait pas de soi, mais qui en France a été vraiment très, très importante. Hein. Et ça s'est évidemment traduit en termes de grossissement d'attaques qui a atteint jusqu'à 30 000 membres au maximum de son apogée, donc autour de 2003. Bon. Donc ça, c'est l'aspect quantitatif. Sur le plan qualitatif, hein, et Annick a commencé à le dire, on avait des idées nouvelles qui commençaient à arriver. Hein, bon, évidemment, démocratie participative, lutter contre la mondialisation néolibérale, lier des combats qui n'allaient pas de soi, ce qui avait été le cas dès Seattle, hein, bon, où il y avait à la fois les écologistes, les féministes, les mouvements sociaux. Bon, tout le monde se rappelle à l'époque, hein, aujourd'hui c'est probablement un peu oublié, de cet éditorial du Financial Times, qui était un peu le journal de la mondialisation néolibérale, qui était le journal des mouvements des milieux financiers internationaux, qui disait, de toute façon, Seattle n'aura pas de lendemain, parce que mélanger des gens qui défendent des tortues et des syndicalistes qui défendent l'emploi dans la sidérurgie, ça n'aura aucun avenir. Bon, l'expérience a montré qu'ils avaient totalement tort, et c'est ça la réussite des forums sociaux mondiaux, d'avoir été capable de mettre toutes ces forces différentes ensemble, et ça pendant une très longue période. Alors, dire aussi que ça a été possible de mettre tous ces gens parce qu'il y avait une transformation très profonde de la culture politique des mouvements sociaux. Ça avait été commencé dès le zapatisme, hein, dont Annick a parlé, mais ça a été théorisé, si on peut dire, de façon encore plus nette pendant les forums sociaux mondiaux. Et pour comprendre l'importance de cette transformation de la culture politique des mouvements sociaux, il faut revenir à ce qui était la norme du XXe siècle. Hein. Bon, depuis le début du XXe siècle, il y avait une vision assez centralisée et pyramidale de la façon de fonctionner. À Porto Alegre, l'idée, c'est qu'il n'y avait plus de hiérarchie. Un des mots centraux, c'était de considérer que personne ne pouvait parler au nom des autres. Hein. On ne pouvait pas parler au nom des féministes si on n'était pas dans un mouvement féministe ou d'un mouvement paysan, du mouvement paysan si on n'était pas partie prenante de ces mouvements. Et puis, non seulement on ne parlait pas au nom d'eux, mais en plus on considérait que cette diversité était une richesse. On considérait que la diversité était une richesse, ce qui était très différent là aussi du XXe siècle, où l'idée était l'unité. Hein, El Pueblo Unido, Jamás será vencido, hein, qui était le mot d'ordre pris un peu partout après le drame du coup d'État au Chili, laissait l'idée que, et ça c'était très important dans la gauche en particulier, ou même dans le mouvement ouvrier, qu'il fallait s'unir en permanence et donc trouver un langage commun. À Porto Alegre, non. Hein, c'était la richesse de la diversité qui était mise en avant. Bon. Alors, avec les difficultés que ça pouvait créer, et ça a créé des tensions sur une question assez centrale, qui était le fait de savoir si les forums sociaux pouvaient ou devaient prendre des positions, par exemple, d'action, hein, qui avait été une des raisons de leur constitution. Est-ce qu'on devait organiser des manifestations ou des campagnes internationales? Et là-dessus, il y a eu un débat qui finalement s'est bien résolu, mais qui au début a été un peu tendu, entre ceux qui considéraient que non, pas du tout. Il fallait surtout pas que les forums sociaux prennent de décision, c'était la position des Brésiliens. Et donc, face à cette tension, s'est créée en fait une espèce de dualité dans les forums sociaux, où il y avait d'un côté le forum social qui ne prenait pas de décision, et de l'autre côté, on a créé ce qu'on a appelé une assemblée des mouvements sociaux, dans lequel se sont retrouvés ceux qui étaient les plus militants et qui voulaient justement un agenda de lutte. Alors, c'était un agenda qui était un peu un agenda à la Prévert, hein. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois les grands rendez-vous comme les grandes manifestations contre la guerre en Irak. C'est les plus grosses manifestations que la planète ait jamais connues, hein. C'était en février 2020, 2003, pardon. On a réuni probablement entre 5 et 10 millions de personnes sur à peu près tous les pays du monde, hein. Bon, donc, c'était vraiment considérable. Et puis, dans le même agenda, vous aviez la réunion d'une petite ONG. Donc, il y avait des choses très, très différentes en poids, mais ce n'était pas très grave. On arrivait quand même à constituer un agenda commun à ceux des mouvements sociaux qui voulaient se doter d'un agenda. Et cette dualité a bien fonctionné, hein. Bon, ça a pris un peu de temps à se mettre en place, mais ça a bien fonctionné et ça a permis à la fois de maintenir le forum comme un lieu totalement ouvert, où les gens pouvaient venir en sécurité, pas en sécurité sur le plan physique, bien évidemment, mais au sens où ils savaient qu'ils ne seraient pas embringués dans une déclaration commune qui peut-être ne leur conviendrait pas, mais où en même temps ceux qu'ils voulaient pouvait construire un agenda de mobilisation qui a été très important pour les grandes mobilisations des années de 2001 à 2008 ou 2010.
Merci. Renick, oui,
Ouais,
vas-y.
peut-être en complément, y compris ce que ça a produit dans les mouvements sociaux en France. Par exemple, la CGT, qui était quand même sur une vision très classique, hein, c'est-à-dire le mouvement ouvrier, le syndicalisme et le reste des mouvements sociaux, c'est autre chose et on s'en mêle pas trop. Et en fait, parce que des militants, notamment du secteur international de la Confédération, sont venus dans les forums sociaux, etc., je pense que ça a contribué aussi à ce qu'il y ait des rapprochements qui se fassent ou en tous les cas des réflexions communes entre différents mouvements, y compris par exemple les discussions qu'on a pu avoir en tant que solidaires avec des responsables de la CGT sur ces enjeux-là. Et ça a été important parce que par exemple la réussite du Forum social européen à Paris en 2003, avec une implication importante de la CGT, bon, et de solidaires notamment, mais je pense que ça s'est construit aussi dans ce contexte qu'on vient de rappeler. Et puis je voudrais dire aussi que par exemple, en 2003, en France, il va y avoir bon, il y a des mouvements sociaux importants, grève sur les retraites déjà, etc. Mais il va y avoir Millau 2003 avec l'affaire de la Confédération paysanne, donc avait la Confédération paysanne très mobilisée, bon, avec notamment José Bové, mais pas que, sur l'affaire du démontage du McDo. Et en toile de fond, c'était les accords de libre-échange, hein. Voilà. Donc tout ça conduit à ce que à Millau en 2003, il va y avoir alors entre 200 000, 250 000 personnes qui vont passer pendant les 3 jours. Et c'est vraiment, c'est vécu comme le mouvement altermondialiste qui existe en France à ce moment-là, qui se réunit, etc. Bon. Et peut-être dernière chose, c'est je pense que la notion d'intersectionnalité qui est beaucoup débattue politiquement aujourd'hui, notamment dans le mouvement féministe, mais pas que, pour moi, en fait, ça fait écho à ce qu'a dit Christophe, c'est-à-dire à ce qu'on disait, le fait que dans les forums sociaux mondiaux, la question qu'il n'y avait plus un sujet politique central qui était la question du rapport capital-travail, mais bien une diversité de luttes contre les oppressions. Et pour moi, ça, c'est vraiment, il y a un écho entre ce qui se met en place à ce moment-là comme réflexion dans les mouvements sociaux et ce qu'on peut appeler aujourd'hui la question de l'intersectionnalité. C'est peut-être un raccourci un peu sommaire, mais pour moi, en tous les cas, voilà, ça fait vraiment écho à ça. Et je pense que, de fait, quelque part, on ne reviendra pas en arrière à ce qui était la vision politique centrale du mouvement ouvrier au XXe siècle, à un seul sujet central et le reste est tout à fait secondaire. Et je pense que depuis cette époque-là, effectivement, on en est à travailler ces questions-là, comment on articule les choses. Et moi, je pense que ça vient aussi des débats dans les mouvements altermondialistes et dans les forums sociaux, quoi.
toujours sur Jet FM, Autre Monde, Autres Ondes. Petite pause musicale, HK et les Saltimbanques, groupe de musique populaire français, particulièrement connu pour leurs textes engagés traitant des luttes sociales, des inégalités et de l'environnement.
Je n'ai pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celles et ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Et s'il nous fallait crever de faim ici tous ensemble, soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Wo yo, wo yo yo yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Wo yo. Wo yo yo yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. Si tu cherches la brute, va là où on parle dollar cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif. Je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières.
Deuxième partie de l'émission avec Christian Laval, sociologue spécialiste du libéralisme, et Patricia Paul, universitaire et militante altermondialiste. Vous êtes toujours sur Jet FM pour l'émission Autre Monde, Autres Ondes.
Oui. Merci de cette invitation, en tout cas à parler de l'altermondialisme. Dans notre dernier bouquin avec Pierre Dardot, nous consacrons une partie entière à l'altermondialisme, une partie divisée en deux chapitres. D'abord, je voudrais insister sur l'importance historique de l'altermondialisme, c'est-à-dire le fait que cet événement, cette espèce d'émergence et d'irruption à la fin des années 90, enfin à partir... Nous, qu'on date de l'insurrection zapatiste, c'est pour nous le moment déclenchant, enfin, à partir de la révolte et de la révolution de 94, c'est le moment où se déclenche quelque chose qui est un appel à une autre organisation mondiale qui affrontera le néolibéralisme. Donc c'est un événement absolument fondamental de riposte au néolibéralisme interprété comme justement une appropriation du monde. La grande nouveauté de l'altermondialisme, il faut vraiment insister là-dessus, c'est qu'enfin il y a un projet ou il y a enfin une initiative qui recrée quelque chose de structuré, d'organisé, oui, on peut le dire, d'organisé au niveau mondial, et qui se donne un projet mondial, justement. C'est-à-dire qui repose la question de la lutte au niveau international. Donc, je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est que il y a là un événement historique absolument déterminant. Il y a un tournant qui s'est opéré avec l'altermondialisme, hein. C'est-à-dire une double rupture d'une certaine façon, une rupture avec les internationalismes passés et en même temps un dépassement de la solidarité internationaliste, si je puis dire. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose d'extrêmement constructif et de positif qui s'est constitué avec l'altermondialisme. Ce qui s'est constitué, c'est quelque chose qui sont les prémices de ce que nous appelons la transversalisation généralisée des luttes et des mouvements. C'est-à-dire que, dès le début, la perspective dialogique, qui était celle de nos amis brésiliens, inspirée par une longue tradition brésilienne de la théologie de la libération, de la pédagogie de Paulo Freire, enfin, toute cette dynamique dialogique, donc, a permis des échanges, des hybridations, une certaine porosité des mouvements, la mise en commun, plus encore que la mise en dialogue, la mise en commun d'un certain nombre de préoccupations, des échanges sur les expérimentations, etc. Donc ça, c'est fondamental, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lieux qui mettaient en connexion les syndicats, qui mettaient les féministes, les mouvements antiracistes, les mouvements paysans, etc. Et j'en passe beaucoup d'autres. C'est un lieu encore extrêmement important, donc de mise en relation. L'autre point qui me semble devoir être souligné, c'est celui du décentrement de la perspective, c'est-à-dire que on abandonne l'idée selon laquelle il y a un centre de la révolution qui serait l'Europe ou qui seraient les pays capitalistes développés, et on tire les leçons finalement de tout ce qui s'est des 50 ou 60 ans avant, c'est-à-dire que la lutte, au fond, elle est aussi bien dans les pays capitalistes que dans les pays qu'on appelait avant les pays du tiers-monde ou les pays sous-développés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fronts, en fait, une multiplicité de fronts qui se sont ouverts. Maintenant, la question, et c'est le deuxième chapitre, et c'est pas une critique, c'est pourquoi y a-t-il eu un épuisement de l'altermondialisme? Voilà. C'est-à-dire, pourquoi cet grand élan qui a duré, quoi, 10 ans, enfin, entre l'insurrection zapatiste et je dirais, le début du XXIe siècle, 2005, entre 2005 et 2010, pourquoi y a-t-il eu un affaiblissement et une sorte de fatigue, on pourrait dire comme ça, et de moindre visibilité en même temps, hein. Et ça, c'est vraiment le problème sur lequel il faut s'interroger. Il y a quand même un point sur lequel je voudrais revenir, sur les aspects positifs, c'est que, au fond, l'altermondialisme pouvait laisser espérer une voie originale qui pourrait s'imposer à gauche, pas seulement dans les gauches nationales, mais je dirais constituer un axe fort d'une gauche mondiale. Voilà. Et c'était, je le rappelle, l'espoir de quelqu'un comme Immanuel Wallerstein, l'historien sociologue américain, plutôt le sociologue, mais qui est aussi historien, Wallerstein, qui est l'un des rares, enfin à mon avis, l'un des plus grands théoriciens de l'altermondialisme, enfin celui qui a essayé d'en tirer les leçons politiques les plus approfondies. Que disait-il? Il disait, au fond, voilà, l'altermondialisme, c'est le socle de la gauche mondiale et qui prépare l'affrontement entre cette gauche mondiale, cette global left, et la droite mondiale. Et ce qu'on voit, c'est que quelques années après son décès, ce qu'on voit, c'est que la gauche globale n'est pas née, elle n'est pas issue de l'altermondialisme, c'est moins qu'on puisse dire, elle ne s'est pas constituée à partir de ce socle-là. Par contre, la droite mondiale, et je dirais même le néofascisme mondial, lui, a pu se développer. Et là, il y a quand même un énorme paradoxe qu'il faut questionner. C'est-à-dire pourquoi c'est le néofascisme international qui est en train de déferler partout dans le monde. C'est ça, à mon avis, le point d'actualité, ce qui est le plus brûlant aujourd'hui. Alors, bon, l'altermondialisme, c'était une voie originale à gauche. Contre quoi? Contre la tentation néolibérale de la gauche de gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a une voie néolibérale de la gauche qui s'est affirmée. On a vu, c'est d'ailleurs ce qui s'appelait la troisième voie, Clinton, Renzi en Italie, et puis ensuite Hollande en France. Alors bon, je passe, c'est bien connu du côté altermondialiste. Mais il y avait une autre voie aussi à gauche, qui est la voie qu'on appelle souverainiste populiste, c'est-à-dire la voie nationaliste d'une certaine façon, et qui reste encore extrêmement, extrêmement vivace. Cette gauche-là, cette gauche reste très attractive pour toute une série de gens, etc. C'est-à-dire l'idée selon laquelle ce qui importe, c'est l'espace national. Ce sont les institutions internationales qu'il faut changer, etc. Donc, abandonnant l'horizon de la lutte internationale. Donc, voilà, l'altermondialisme avait toutes les chances, finalement, enfin, a été porteur d'un espoir immense, c'est de dégager cette voie qui ne soit ni néolibérale, ni nationaliste ou étatiste. Bon. Et le grand, je dirais ma grande tristesse d'une certaine façon, je crois qu'elle est celle de beaucoup qui ont été déçus, c'est que cette voie altermondialiste ne s'est pas épanouie comme on pouvait s'y attendre. Bon, alors, la question, c'est pourquoi. Il y a des tas d'éléments objectifs. Évidemment, le néolibéralisme s'est radicalisé. Il s'est accompagné de formes de plus en plus autoritaires, de manières de plus en plus répressives, etc. Donc, il y a vraiment un système de défense du néolibéralisme qui a pris des aspects justement néofascistes. Enfin, je répète souvent que pour moi, le néofascisme, c'est le stade suprême du néolibéralisme. Donc, il y a eu des tas de raisons objectives. Il y a le fait que les salariats restent divisés. Il y a le fait que la gauche gouvernementale a fait ce qu'elle a fait, c'est-à-dire trahi les classes populaires, etc. Bon, il y a beaucoup de raisons. Mais il y a peut-être des raisons internes. Donc, à l'altermondialisme et à la manière dont il s'est organisé. C'est ça que je veux dire et j'y viens maintenant. Qu'est-ce qui finalement a fait problème? Il y a peut-être une question qui n'a pas été assez posée, c'est dans quelle mesure cette méthode, cette méthodologie, on a beaucoup répété dans le mouvement altermondialiste, cette affaire de méthodologie, tout était affaire de méthode, etc. Etc. Bon, il fallait surtout pas donc une organisation verticale et centralisée. Ça je le comprends parfaitement. J'ai dit les qualités et pourquoi ça devait être comme ça. Mais en même temps, cette méthodologie, elle a trouvé ses limites. Elle a trouvé ses limites dans le refus obstiné de toute position unifiée, de refus de faire des communiqués à la fin, par exemple, en étant un des symptômes. C'est-à-dire la peur, je pense que ce mouvement a eu extrêmement peur, s'est auto-limité de façon très délibérée et sans doute beaucoup trop dans le chemin d'une doctrine et d'une stratégie mieux pensée, plus réfléchie, plus commune d'une certaine façon. Parce que le commun, pour nous, ce n'est pas seulement la mise en commun des idées ou des paroles, bon, ou des échanges, ce n'est pas seulement des dialogues, c'est quand même l'élaboration théorique. Bon, et donc la question, c'est premièrement, est-ce que le mouvement altermondialiste a suffisamment travaillé la question de l'analyse du néolibéralisme, c'est-à-dire la nature de l'ennemi? Je n'en suis pas sûr du tout, c'est-à-dire que je n'ai pas vu sortir au fond de ce mouvement des analyses suffisamment construites qui pourraient donc unifier d'une certaine façon le mouvement sur le plan doctrinal, au moins sur le plan de la critique. Parce que derrière le mot néolibéralisme, on peut y mettre plein de choses. Bon, ça c'est la première question. Deuxième question, vers quel horizon? Est-ce qu'on peut avoir un mouvement international qui se refuse d'une certaine façon à mieux dessiner l'objectif que l'on vise? est beau de dire un autre monde est possible, un autre monde est souhaitable. Oui, quel autre monde? Alors, je comprends parfaitement l'inhibition du mouvement à ne pas vouloir répéter ce qui s'est produit dans le passé, c'est-à-dire d'avoir une définition bien, bien ficelée de ce que devait être le socialisme ou de ce que devait être le communisme. Bon, c'est-à-dire, c'était là recréer un parti. Mais n'empêche que il y a eu quand même un problème sur qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche une régulation publique du capitalisme? C'est-à-dire, est-ce qu'on cherche à investir les organisations internationales, du FMI, de l'OMC, de la Banque mondiale? C'est ça nos ennemis et c'est ça qu'on cherche à transformer, à réinvestir. Bon, mais comment faire? Deuxièmement, est-ce que c'est une régulation qu'il faut ou une révolution? C'est pas clair. C'était pas forcément clair. Certains voulaient finalement un capitalisme moins financiarisé, ligoter en quelque sorte le capitalisme débridé tel qu'il s'était manifesté, donc dans les années 80. D'autres étaient des anticapitalistes plus radicaux. Bon, évidemment, il ne fallait pas fâcher ni les uns ni les autres, donc on est resté un peu dans le flou. Deuxièmement, deuxième axe de ce néolibéralisme, la satisfaction des droits universels et des besoins fondamentaux de l'humanité. Bon, très bien, c'est-à-dire là, c'est une autre ligne. C'est la ligne qui vise une communauté politique mondiale. Une communauté politique mondiale, effectivement, elle pose question, c'est qui peut satisfaire ces besoins fondamentaux et qui peut garantir ces droits universels. Est-ce qu'il s'agit cette fois non plus des organisations économiques et financières internationales, mais est-ce qu'il s'agit de l'ONU? Est-ce qu'il s'agit finalement de transformer l'ONU, c'est-à-dire d'avoir une gouvernance mondiale différente qui prenne au sérieux la charte de 48 et les chartes des années 60? Bon, et là, c'est une autre perspective. Gus Macia était sur cette ligne-là. Je veux dire, donc, les droits universels, mais oui, mais comment? Bon. Ensuite, il y a eu d'autres perspectives qui nous sont semblées beaucoup plus fécondes, qui ne visent pas immédiatement l'organisation mondiale, organisation économique ou ONU, mais qui visent les organisations locales, les structurations locales, le retour local, c'est-à-dire la perspective, par exemple, qui a été celle de Bello, de la démondialisation, une relocalisation qui permet d'articuler donc la lutte contre le globalisme économique et d'autre part la démocratie locale, c'est-à-dire une reconstruction par le bas. Voilà, ça nous a paru à un moment beaucoup plus important. Et je termine en disant que ce qui a été un ratage, il me semble, un ratage, c'est que l'altermondialisme n'a pas pris à temps le virage des communs. C'est-à-dire l'idée selon laquelle nous disposions dans les luttes, dans les expérimentations, dans les doctrines, dans les théories, nous disposions enfin d'un modèle alternatif pluriel qui respectait la multiplicité des expériences locales et des formes institutionnelles. Et quand on suit un petit peu l'évolution de la prise en compte des communs, des biens communs et des communs, et bien on s'aperçoit d'une très insuffisante prise en compte, prise en charge de cette thématique-là, qui aurait pu permettre une certaine unification, en tout cas des esprits, enfin, en tout cas un terrain sur lequel on pouvait bâtir quelque chose.
Pourquoi est-ce qu'on s'est dit, malgré toutes les contradictions que tu as soulevées et malgré l'essoufflement de cet altermondialisme, que c'était important de se remettre dans le système, je dirais, altermondialiste, et donc là, en l'occurrence, l'organisation qui permet aussi de poursuivre cette dynamique, c'est dans le cadre des forums sociaux mondiaux et notamment du Conseil international. Moi, je suis arrivée tard dans le processus. Je connaissais bien les forums sociaux mondiaux d'un point de vue un peu, on va dire, universitaire, puisque j'ai travaillé sur la question de l'internationalisation des organisations, mais je n'étais jamais rentrée dedans. Et en rentrant dedans, la première fois au Forum social mondial de Salvador de Bahia, j'ai entendu énormément de critiques des anciens, on va dire, enfin des critiques en disant, voilà, la dynamique est essoufflée, ça marche pas. Alors que moi-même, j'avais été assez émerveillée, j'avoue, à Salvador, de voir comment il y avait, ça réunissait, je crois, il y avait une cinquantaine de mille de personnes quand même, des mouvements extrêmement divers, locaux, autochtones. Il y avait tout ce mélange de luttes qui produisait une énergie absolument incroyable et qui, en tout cas, dans un premier temps, m'avait paru ne pas être si inefficace que ça, localement, voire même mondialement, parce que quand on revient de ce type d'expérience, on revient quand même avec une énergie qu'ensuite on essaye de produire aussi localement. Et puis ensuite, chemin faisant, j'ai participé pas mal à l'organisation du forum social à Katmandou, au Népal, l'année dernière. Et pareil, là, on a bien vu le Népal, petit pays situé entre la Chine et l'Inde, combien l'organisation de ce forum avait permis aux mouvements sociaux, notamment indiens, de venir se rencontrer et essayer de aussi se redonner de l'espoir et de l'énergie au Népal. Et c'était aussi assez impressionnant de voir combien toute cette intersectionnalité, les féministes, les paysans, les écologistes, les syndicats étaient présents donc dans ce petit pays qui, on peut le dire, est quand même assez démocratique dans la zone asiatique, mais on a bien vu là récemment les mouvements importants, est aussi coincé quand même entre la Chine et l'Inde. Et donc, ça n'est absolument pas simple, surtout quand on voit combien l'extrême droite a monté en Inde. Donc, on s'est dit, et c'est là où la candidature à Cotonou a émergé, portée par un mouvement sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, qui est la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau. Donc, le bas, je dirais, de 60% de l'économie africaine est donc là. Et on a vu le sens que cela pouvait prendre, cette candidature à Cotonou. Alors, c'est sûr que, et là vraiment, je te rejoins, est-ce qu'on a là, dans la préparation de Cotonou, moi, je peux intervenir que là-dessus parce que je participe au Conseil international et au secrétariat de ce Conseil international et à tous les débats qu'il y a, on retrouve. Mais on retrouve encore toutes les contradictions dont tu parles. C'est-à-dire, quel est notre objectif vraiment final? Est-ce que, on a un objectif radical de transformation de nos institutions internationales? Est-ce qu'on est vraiment très clairement anticapitaliste au sens de se dire comment construire une société post-capitaliste? Non pas avec un seul modèle, mais peut-être plusieurs. Et c'est vrai que moi, je fais partie avec d'autres copains d'attaque de la défense de. Non pas un autre monde est possible, mais d'autres mondes sont possibles, puisqu'on a bien vu que l'illusion de cette gauche mondiale, elle marchait pas. Et donc, on voit bien là qu'on n'a pas l'ambition, enfin, me semble-t-il, mais Shima peut-être pourra compléter, puisqu'elle, en plus, elle a été directement organisatrice de forums en Tunisie, et donc elle a aussi un autre regard. Mais moi, mon regard, je vais dire, de femme occidentale qui, de par son parcours à voyager un petit peu dans le monde entier, mais toujours avec ce regard occidental, là, je me dis que c'est aussi un moyen, et tu l'as dit, extrêmement important pour nous, précisément dans nos luttes, de nous décentrer sur nos problématiques parfois très nationales. Et dans cette dynamique altermondialiste, si on continue à garder cette idée d'altermondialisme par rapport à l'internationalisme, moi je m'étais toujours considérée comme une internationaliste convaincue, mais l'altermondialisme, là c'est dans un contexte, quand même on peut le voir, de chaos total, de montée de néofascisme et d'une mondialisation de ce néofascisme, de questions climatiques terribles, et là je le vois puisqu'il va y avoir la COP qui va se passer à Belém, et on voit que Lula soutient des projets totalement capitaliste pour la protection des forêts, par exemple. Donc, dans ce contexte, finalement, même quand il se veut toujours très social-démocrate, quand il se veut un peu à gauche, on voit quand même dans les mouvements sociaux qu'on côtoie à travers ce Forum social mondial que les luttes ont quand même sont extrêmement présentes, puisque face à ces contraintes et à ces répressions, on voit bien qu'au niveau local, il y a une forte organisation. Et donc, on voit comment peut à nouveau peut-être du local repartir dans une lutte mondiale, puisque le capitalisme a mondialisé l'ensemble des marchés, l'ensemble des États qui sont de plus en plus privatisés. Donc, on voit, ça nous semble plus que jamais être nécessaire d'essayer de alors redynamiser est peut-être un terme un peu fort, mais en tout cas d'essayer de garder, en tout cas de croire que quand même d'autres mondes sont possibles.
Sen bulmak ismet ile de fokmiyor hamuma linet kisama su aksigime bekuma kuma hol dal dine yo linet kisi yo monesiman linesiman moe dilen yapalı. Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas, changer.
Seven seconds away, just as long as I stay.
C'était Seven Seconds, un morceau de 1994 qui mélange les voix et les langues de deux artistes, Youssoum Dour et Néné Chéri. Et maintenant, Cheyma Benmida, militante altermondialiste.
Je pense que ce qui m'a amenée à participer au processus du FSM, c'est là aussi la réponse aujourd'hui qui me fait rester et qui me fait militer encore et encore pour ce processus. Alors, ça peut paraître un peu rêveur, un peu naïf, mais le fait qu'il y ait un espace de lutte anticapitaliste, anti-néolibéral, pour moi, déjà, ça a été un souffle et un rêve, une concrétisation d'un rêve pour moi. Donc, je ne vois pas beaucoup dans ce monde d'espace où on peut lutter justement en commun, ensemble, contre le système capitaliste. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait qu'il y ait justement une horizontalité entre tous les mouvements, que ça soit ouvert, qu'il n'y ait pas d'hiérarchisation, qu'il n'y ait pas de classification. Non, tout le monde est bienvenu, on est là, on peut lutter ensemble, quelles que soient nos luttes, quelles que soient, bien sûr, si on respecte la charte du FSM, quelles que soient nos luttes, quelles que soient nos orientations, eh bien, c'est un espace ouvert et c'est un espace. Donc, ce n'est pas une rencontre, ce n'est pas un mouvement, non, c'est un espace. Donc, l'objectif, moi je comprenais le fait qu'il n'y ait pas d'objectif prédéfini du Forum social mondial, mais l'objectif, c'était de laisser les mouvements justement qui y participaient de co-construire ensemble des mouvements ou des rencontres ou quel que soit leur choix plus tard, après le forum, ou continuer à lutter ensemble dans le processus du forum. Et je pense, à mon humble niveau, que ça me suffisait comme réponse, et que ça a suffi à plusieurs autres mouvements aussi, puisqu'ils sont toujours là aujourd'hui. Après, moi, ce qui me paraît essentiel aujourd'hui, c'est de ne pas s'attendre à ce que le forum fasse révolution tout seul aussi. On voit bien que la gauche s'épuise partout dans le monde, que la droite et les idéologies de droite font ravage dans tous les pays, que les jeunes ont du mal à s'impliquer et à militer, à s'engager dans les luttes. Donc, le fait que le forum s'épuise, c'est aussi un reflet de toutes les sociétés, de tous les mouvements, de tous les pays, de toutes les gauches. Et ça explique un peu, enfin, ça se rejoint. S'il n'y a plus autant de mouvements, autant de jeunes aussi impliqués dans les luttes aujourd'hui, eh bien, dans le forum, on le voit très bien aussi. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le fait qu'il y ait aujourd'hui plusieurs crises, qu'il y ait plusieurs luttes, et avec les réseaux sociaux, avec Internet, puisque le forum, il a débuté dans les années 2000, et peut-être n'a pas su comment dire, se renouveler ou réintégrer les nouveaux outils, même s'il y a eu des tentatives, hein. Il y a eu des forums délocalisés, il y a eu un forum pendant le Covid sous forme de webinaire, de plusieurs webinaires, donc sur Internet et tout, mais ces tentatives n'ont pas été très fructueuses. Donc peut-être que le fait que aujourd'hui, les réseaux sociaux et les plusieurs mouvements, surtout pour les mouvements pour le climat, militent beaucoup plus via les réseaux sociaux et refusent, par exemple, de participer dans les forums sociaux pour ne pas avoir à prendre l'avion ou à prendre le bateau, ne pas avoir à se déplacer très loin pour participer au forum, ça peut expliquer aussi le fait qu'il y ait, par exemple, un certain refus des mouvements pour le climat ou certains mouvements radicaux pour le climat d'intégrer le Forum social mondial. Donc, je pense que c'est vrai qu'il y a un essoufflement, c'est vrai qu'il y a une certaine limite au Forum social mondial. Mais ça n'empêche, comme disait Patricia, c'est aussi un souffle pour plusieurs autres petits mouvements, et surtout dans les pays du Sud. Peut-être que dans les pays du Nord, on s'attendait à un truc beaucoup plus révolutionnaire, beaucoup plus frappant, beaucoup plus, c'est-à-dire comme une révolte, une révolution. Mais dans les pays du Sud, même les petits changements, le fait de mettre en contact plusieurs associations, plusieurs organisations, ça déjà. C'est énorme. Montrer d'autres modèles, de nouveaux modèles de lutte, de nouveaux modèles de fonctionnement, ça c'est précieux.
Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Oh, yo.
Et quand on voit comment ça se passe l'organisation à Cotonou, alors vraiment, on le voit. Il y a vraiment, pour nous occidentaux, des mondes totalement différents et des mondes qui ont leur propre rationalité et qui ont aussi envie et qui, eux, finalement, ne sont pas autant dépendants, peut-être, enfin, sont complètement victimes du capitalisme, c'est très clair, mais ont aussi localement des modes d'organisation qui n'ont rien à voir avec le capitalisme. Mais je fais juste le lien avec, parce que c'est aussi un des éléments du processus, finalement, ce qui va se passer à Belém. Là aussi, il y a une, on va dire, une contre-COP. En tout cas, il va y avoir le sommet des peuples qui organise une contre-COP. Enfin, contre-COP, ils disent une COP parallèle. On est quand même tous d'accord que ce qu'on veut, c'est une transformation radicale des mondes et voir comment les communs peuvent mieux s'exprimer. Et donc, on va voir le sommet des peuples. Je pense qu'il ne faut pas non plus avoir des illusions démesurées, mais c'est aussi, notamment pour les peuples autochtones, en tout cas, une manière de réaffirmer, par rapport à la forêt amazonienne, la réponse, c'est nous. Et je trouve que ce slogan, la réponse, c'est nous, c'est un peu comme une plateforme en Europe, People's Platform, dit « Reclaim the initiative », reprenons en main finalement, ce que nos institutions et nos États et les marchés nous ont complètement dépossédés. Alors bon, voilà, il faut effectivement se dire que, de cet espace mondial qui va se jouer à Cotonou, en tout cas, et qui va être une étape vers autre chose, hein, parce qu'on a bien conscience que l'événement Forum social, ça n'est jamais qu'un événement. Donc évidemment, en aucun cas, ça va pouvoir produire une transformation radicale. Mais il ne faut pas oublier que des militants, on en a besoin. Et si on peut leur redonner du souffle aussi, et surtout pour les militants occidentaux que nous sommes, nous décentraliser par rapport aux luttes féministes, antiracistes, on a beaucoup, beaucoup à apprendre de ces autres mondes.
Le mot de la fin était de Patricia, qui nous a transmis un peu de son énergie. Rappelez-vous, la solution, c'est nous. Et on en reparlera, ici, sur Jet FM. Pour vous tenir informés des actualités de lutte, le site Data 44 est toujours une source d'informations abondante. Avec également une rubrique podcast dans laquelle vous trouverez tous nos enregistrements, émissions. Pour une rencontre en présentiel, je serai présente comme à l'habitude à la soirée Finances solidaires du 27 novembre à Nantes. Plus d'infos toujours sur le site. Et également, pour info, la prochaine émission Autre Monde, Autres Ondes sera le 9 décembre à 17h. Nous parlerons de la pollution autour du port de Saint-Nazaire. On vous attend nombreux, nombreuses à l'écoute. Bisous, bisous, ciao, ciao, see you soon.
Nous sommes là, nous serons là. On l'a été pour contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et on le sera contre le projet d'Amazon. Merci.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même. Et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre zone.